France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les données administratives de 15 millions de Français dans la nature et pour près de 170 000, ce sont des données de santé sensibles, conséquence d'une cyberattaque à grande échelle fin 2025. Quelles conséquences pour les patients? Pourquoi nos données sont-elles si mal protégées? On en parle dans un instant. À suivre encore, Jean-Luc Mélenchon, à nouveau accusé d'antisémitisme après ses déclarations sur l'affaire Epstein hier soir, ce qu'il conteste. Nous verrons cela. Cette décision qui fait bondir les syndicats agricoles français. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, la présidente de la Commission européenne décide d'appliquer provisoirement l'accord Mercosur.
Effectivement, rien ne l'empêche car l'approbation du Parlement européen n'était pas formellement requise. Les opposants à l'accord dénoncent tout de même un déni de démocratie.
Et nous écouterons la réaction du président de la FNSEA. Nous parlerons aussi des conséquences des fortes pluies de ce début d'année. Des lignes SNCF coupées, nous irons en Ariège. Des étoiles de mer par milliers sur les plages de Loire-Atlantique. À partir de 13h30, le retour du religieux chez les jeunes. Plus nombreux à suivre en ce moment le carême pour les chrétiens, le ramadan pour les musulmans. Nous en parlons avec nos invités et avec vos témoignages. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. La montagne, le danger et la liberté. C'est la question des secours que certains proposent de faire payer, le regard de l'écrivaine Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Sophie Guillemin demande le sud-africain Gunflavor.
Moi, mon petit rituel du soir, je suis toute seule dans ma loge, je me mets de la musique, je danse, je chante. Et maintenant, je l'écoute tous les soirs avant d'aller jouer sur scène.
Au micro de Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La société se nomme CGDIM. Son logiciel pour stocker les données de santé des patients français est utilisé par 3800 médecins dans notre pays. Les données de 1500 d'entre eux ont donc été volées fin 2025 par un hacker qui les a mises en ligne. Et cela concerne, nous a dit le ministère de la Santé ce matin, 15 millions de Français, parmi lesquels des personnalités politiques de premier plan, ce qui repose une nouvelle fois la question de la sécurité de données parfois extrêmement sensibles. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Ce n'est pas la première cyberattaque du genre.
Ah, si je vous dis que rien que ce mois-ci, des cyberattaques ont touché la CAF, la Gendarmerie Nationale, les fédérations de judo, d'athlétisme, de badminton, les Restos du Cœur, Adidas ou l'Olympique de Marseille, et je pourrais continuer encore longtemps, nous sommes dépassés par les fuites de données et condamnés à les subir, nous explique l'expert en cybersécurité Jérôme Billois.
Le problème dans le monde d'aujourd'hui, c'est que tout est numérisé et que finalement, même si on souhaite à titre personnel minimiser les données qu'on expose sur Internet, bien il y a des fois où elles le sont à notre insu. Dans le cas de cette fuite, les gens ont été voir leur médecin, ont parlé avec lui et c'est le médecin qui a écrit dans son logiciel ces informations et qui fuite par rebond.
Alors là, en l'occurrence, ce ne sont pas des dossiers médicaux complets qui ont fuité, mais des données administratives. Nous avons pu accéder à un échantillon de ces données. On y trouve des noms, prénoms, des adresses, mais aussi des annotations de médecins qui, là, peuvent inclure des informations sensibles. Ce qui montre une mauvaise utilisation, peut-être, de ce logiciel. Il y a des processus à améliorer, mais nous sommes bien obligés de faire confiance aux organismes qui gèrent nos données et à leur niveau de cybersécurité. Jérôme Billois.
En fait, il ne faut pas baisser les bras. Ce que montre cette accélération, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit d'investissement dans la cybersécurité de nos données. Il faut que ce soit au niveau de l'État, de la réglementation, de notre Commission nationale informatique et liberté, qu'on hausse le ton, qu'il y ait des investissements aussi pour amener plus de cybersécurité.
Et sur ce volet, l'Agence du numérique en santé nous assure que les choses évoluent favorablement avec le déploiement dans les prochains mois d'une solution technologique plus sécurisée, incluant notamment une notification à deux facteurs dans tous les logiciels utilisés par les professionnels de santé.
Merci Adrien Serrière pour ces explications. Bonjour Agnès Gianotti.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du syndicat MG France. Vous avez des médecins qui sont concernés parmi les 1500 qui se sont vus voler leurs données ?
Oh oui, parce que ce sont des gros logiciels très utilisés, donc oui, il y a des médecins concernés. Et puis d'autres logiciels ont été concernés il y a quelques mois aussi par des fuites de données, donc c'est quelque chose qui est une préoccupation réelle.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ces dossiers ? Il y a vraiment des données sensibles. Adrien parlait des annotations libres, qu'est-ce que ça peut être par exemple ? Qu'est-ce qu'ils écrivent les médecins ?
Faut que vous compreniez que nos dossiers médicaux, c'est nos outils de travail. Comme le dossier cartonné des médecins il y a 50 ans. Donc, on écrit dedans tout ce dont on a besoin de se rappeler pour les consultations suivantes. Donc, il y a absolument tout.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire ce qui concerne l'état de santé, s'il y a des problèmes psychologiques, faut qu'on le note pour voir après si ça va mieux ou pas. Il y a beaucoup de choses dans nos dossiers médicaux, mais qui sont censés être secrets.
Et qui peuvent nous concerner ou concerner aussi peut-être nos parents. Il y a les antécédents familiaux.
Il y a tout. Il y a tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler à la prise en charge globale des patients. Donc, nous, on est quelque part pris entre le marteau et l'enclume. On a un État qui veut absolument qu'on mette le plus de choses possibles en ligne, sur des logiciels, sur des serveurs externes, partagés avec d'autres professionnels. Et il se dédouane en disant qu'on doit demander l'accord du patient avant de mettre quoi que ce soit sur le dossier, ce que personne ne peut faire, bien évidemment. Mais c'est une façon pour l'État de se dédouaner de sa responsabilité. Regardez, le dossier médical partagé, on nous dit jusqu'à présent que c'est sécurisé. Ok, moi je veux bien, mais quand même le site des impôts a été hacké il y a 15 jours. Donc quoi de plus sécurisé que le site des impôts ? Donc c'est un vrai, vrai souci de confiance et aussi de sécurité pour les patients et de pénalisation de notre exercice. Dans le dernier projet de loi de la sécurité sociale, rappelez-vous, ils voulaient nous mettre une pénalité de 10 000 euros si on ne mettait pas des documents dans le dossier médical partagé.
Le ministère de la Santé dit ce matin que, en ce qui concerne les données sensibles, il y a eu 15 millions de Français qui ont été victimes de cette fuite massive, mais il n'y a que 1% qui avaient des données sensibles annotées par leur médecin. Mais compte tenu de ce que vous venez de nous dire, Agnès Iannotti, est-ce que vous dites il faut faire une pause, il faut arrêter d'avancer dans la mise en ligne des données de santé?
En tout cas, il faut se poser des questions. Et aujourd'hui, c'est pas ça, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on va avoir un Ségur 2 de nos logiciels, le Ségur 1, et même pas encore stabilisé. Donc il y a des cahiers des charges extrêmement lourds pour les éditeurs de logiciels qui n'arrivent pas à suivre. Comme c'est un marché public avec des sociétés différentes, il y en a qui suivent plus ou moins bien. Et on leur rajoute de plus en plus de contraintes parce que c'est cette fuite en avant. Et on s'assure pas que les choses sont faites correctement. Et nous, on nous oblige à utiliser des choses qui ne sont pas stabilisés et qui ne marchent pas tout à fait.
Est-ce que vous avez déjà des médecins qui refusent de mettre ce type d'annotation, qui mettent juste le nom et l'adresse, pas plus ?
On ne peut pas travailler à prendre en charge quelqu'un si on n'a pas les informations qui les concernent.
Donc, ouais, mais si ensuite elle se retrouve dans la nature ?
C'est bien ça le problème. Donc normalement, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est bien ça le problème. Mais si vous voulez qu'on vous soigne, il faut qu'on se rappelle de tous les éléments qui vous concernent, la fois où on vous revoit après.
Merci Agnès Iannotti d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, présidente du syndicat MG France, invitée de ce 13-14. 10 jours après l'agression mortelle du militant identitaire Quentin de Ranque, c'était à Lyon, et la mise en examen de plusieurs militants d'extrême-gauche dans cette affaire, Jean-Luc Mélenchon tenait hier soir dans cette même ville de Lyon un meeting de campagne. Et devant près de 2000 personnes, il a d'abord longuement dénoncé le travail de la presse, citant plusieurs médias, suscitant au passage les huées de la salle, avant de s'attarder sur l'affaire Epstein, du nom du criminel sexuel américain, dont une partie du dossier judiciaire a été publiée aux États-Unis, avec la mise en cause de nombreuses personnalités à travers le monde. Et ses propos lui valent aujourd'hui des accusations d'antisémitisme. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Vous avez assisté hier soir à ce meeting à Lyon. Qu'a dit précisément le leader insoumis ?
Au milieu de sa diatribe contre le traitement qu'il juge injuste de certains médias, Jean-Luc Mélenchon interpelle la salle directement.
S'il s'agit de l'affaire Epstein, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe Epstein, Alors maintenant vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein.
Ici, le leader insoumis sous-entend que les médias ont modifié volontairement la prononciation du nom de ce prédateur sexuel pour cacher sa confession juive sur le ton de la blague, ce qui a fait rire toute la salle autour de nous. Aucune indignation. Et alors, on a cherché, ce n'est pas la première fois, Jean-Luc Mélenchon en meeting à Creil, il y a 2 semaines, a prononcé exactement la même phrase. Lui se défend et minimise. Il explique ce matin avoir simplement ironisé sur cette question et rejette toute accusation d'antisémitisme.
Des accusations, justement, qui se succèdent ces dernières heures.
Oui, de tous les partis politiques, du Rassemblement National aux écologistes, tous se sont fendus d'un message. Les coups pleuvent sur Jean-Luc Mélenchon depuis ce matin, de ses alliés comme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui écrit « est antifasciste, celui qui combat le fascisme, pas celui qui en réutilise les ressorts les plus dangereux ». Réaction encore plus franche d'Éric Lombard, ancien ministre de l'économie, invité de RTL ce matin.
C'est évidemment les codes de l'antisémitisme, c'est inadmissible. Il est antisémite, la réponse à Jean-Luc Mélenchon, elle doit se faire dans les urnes, elle doit se faire par la confrontation politique sur les idées.
Même le président de la République s'est exprimé. Un simple message sur X, un texte, c'était il y a 15 jours, et une vidéo, un extrait de son discours pour la cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, tué parce que juif. Discours dans lequel Emmanuel Macron fustigeait l'antisémitisme de l'extrême gauche.
Mathieu Benour, alors sur France Inter, depuis le début de cette affaire, vous entendez les deux prononciations, tout simplement parce qu'elles coexistent dans le débat public. Certains intervenants prononcent Epstein, d'autres Epstein. Mais choisir d'ouvrir ce débat publiquement de la prononciation n'est pas anodin, souligne Christophe Prochasson, historien spécialiste de l'histoire culturelle de la politique et de la gauche française.
Le nom du juif est d'une certaine façon ce par lequel on le reconnaît comme tel. On le voit très très bien, par exemple, dans l'antisémitisme au temps de l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Il y a une résonance antisémite dans ce propos, dans la mesure même où ce n'est pas la première fois. Il y a une espèce d'insistance à jouer aux limites. Pour moi, ça relève davantage d'une consolidation d'un électorat que d'un élément de doctrine qui serait au cœur de la pensée de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'il y a un moment où, en effet, les choses deviennent tellement insupportables qu'il y aura un tournant. Et on peut s'interroger d'ailleurs sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, s'il ne le fait pas exprès d'une certaine façon, qui viserait un isolement total d'une force politique qui décidément manie des éléments de langage extrêmement dangereux.
L'historien Christophe Prochasson au téléphone de Raphaël Benabdel-Moumen. C'est une vaste campagne de prélèvement d'ADN qui vient de débuter autour du village du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Le Vernet, ce hameau où le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu en juillet 2023 avant qu'une partie de son corps ne soit retrouvée en mars 2024. Pour l'instant, l'enquête n'a rien donné. Le placement en garde à vue de ses grands-parents l'an dernier n'avait pas permis à l'enquête de progresser, d'où cette opération. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Les prélèvements sont en cours, une centaine de personnes concernées. En quoi cela peut-il aider l'enquête ?
Alors l'objectif en tout cas est d'identifier 2 traces ADN retrouvées sur une chaussure et un vêtement du petit Émile qui ne correspondent pas aux ADN de la famille du garçon et donc peut-être ouvrir une nouvelle piste. Alors ce système de campagne de prélèvement massif est apparu à la fin des années 80 en Angleterre pour tenter alors de retrouver le violeur et meurtrier de 2 jeunes filles. 5000 hommes sont ainsi prélevés, un pari énorme quand on sait qu'à l'époque un prélèvement avoisine le 1000 000 euros et chou blanc jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent que le coupable a payé quelqu'un pour être prélevé à sa place. Depuis, ces campagnes se sont multipliées en France. L'une des plus marquantes a été l'affaire Caroline Dickinson, 1 000 000 d'hommes prélevés pour tenter de retrouver le violeur et meurtrier de cette adolescente. En vain, mêmes échecs en 2014 à La Rochelle, en 2015 dans l'Aisne, 2021 dans les Landes. Mais il y a aussi des réussites. Au moins 2 accusés s'apprêtent à être jugés très prochainement après de telles campagnes, dont les coûts sont désormais bien plus abordables. De quoi, pour les juges d'instruction, pouvoir se dire que ça vaut le coup d'essayer.
Et quel est le cadre légal, Charlotte ? On peut demander de l'ADN comme ça à tout le monde ?
Alors, il y a une vraie problématique éthique, effectivement. À noter que les ADN qui ne correspondent pas avec celui de la scène de crime ne sont ni gardés, ni envoyés au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais surtout, ces prélèvements ADN ne sont pas obligatoires. Ils nécessitent l'accord de la personne prélevée, tout en sachant qu'une personne qui refuse ou est soudainement absente devient tout aussi suspecte et prend le risque d'orienter l'enquête dans sa direction.
Charlotte Piret pour ses explications. Il avait été jugé irresponsable du meurtre de Sarah Halimi en 2017, cette sexagénaire de confession juive. La Cour de cassation avait entériné plus tard le caractère antisémite de ce crime. Eh bien, cet homme va être présenté aujourd'hui à un juge pour son implication présumée, mais cette fois dans une affaire de séquestration. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Cet homme était en liberté ?
Oui, pas complètement. Kobili Traoré avait été interné en UMD, unité pour malades difficiles, en 2020, depuis qu'il avait été déclaré pénalement irresponsable du meurtre de Sarah Halimi. Puis, il était resté hospitalisé depuis 2024 et bénéficiait donc de permissions de sortie. Et c'est au cours de l'une d'elles qu'il aurait commis ce homejacking fin janvier, en compagnie de 2 autres suspects, également faisant l'objet de traitements psychiatriques. Et le parquet de Paris indique que les 3 hommes se sont rendus au domicile de leur fournisseur de stupéfiants dans le 16e arrondissement. Ils l'ont aspergé de gaz lacrymogène lacrymogènes, ont dérobé des objets de valeur pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils sont aujourd'hui présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen et le parquet va demander leur placement en détention provisoire, sachant qu'un psychiatre a établi, cette fois au cours de la garde à vue, que Kobili Traoré ne présentait pas de symptomatologie aiguë. Alors, les avocats de la famille de Sarah Halimi expriment immédiatement leur stupéfaction face aux permissions de sortie dont bénéficiait Kobili Traoré. Maître Pardo affirme par ailleurs rassembler de nouveaux éléments qui démontreraient, selon lui, que la thèse de l'abolition du discernement ne tenait pas au moment du meurtre. Il promet d'engager des initiatives procédurales pour que le crime ne reste pas impuni.
Jean-Philippe Deniaud. Le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, l'auteur des faits, avait été tué ce jour-là, mais deux hommes sont rejugés pour complicité. Ce matin, le parquet a demandé 20 ans de réclusion contre ces deux hommes, auteurs de la campagne de haine.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Voilà une information qui est déjà très commentée dans les allées du Salon de l'agriculture. Elle concerne l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays d'Amérique du Sud, le Mercosur. Il y a un mois, le Parlement européen a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union, ce qui pouvait repousser la validation et la mise en œuvre de cet accord, à moins que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne décide d'appliquer provisoirement ce texte et sans attendre. Fabien Cazot, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Ce qu'elle a donc décidé de faire ce matin, et c'est parfaitement légal.
Oui, puisqu'une majorité qualifiée d'États membres contre l'avis de la France lui en avait donné mandat en début d'année sans soumettre l'application provisoire de l'accord à une quelconque approbation du Parlement européen. Entre-temps, il y a eu ce vote, effectivement, des eurodéputés qui renvoient le texte pour examen devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ceux qui avaient voté pour ce renvoi dénoncent aujourd'hui un déni de démocratie, alors qu'au contraire, l'Espagne, notamment, très en faveur de l'accord avec l'Allemagne, dit ce midi soutenir la décision de la Commission dans la foulée de l'Uruguay et de l'Argentine qui ont de l'autre côté de l'Atlantique ratifié hier l'accord au nom de l'urgence qu'il y a aux yeux de la Commission et de ses partenaires latino-américains à diversifier leurs débouchés commerciaux au moment où Donald Trump persiste dans sa volonté d'imposer des droits de douane au monde entier.
Fabien Cazot, notre correspondant à Bruxelles. Nombreuses réactions donc. Je vous donne celle de la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard. C'est une décision que je regrette. Même tonalité chez le patron de la FNSEA, premier syndicat agricole français, Arnaud Rousseau.
Elle prend une décision sans même avoir concerté. Je le dis parce que j'étais avec la ministre de l'Agriculture au moment où les faits se sont passés. Et visiblement, elle n'avait pas été avertie avant que la décision soit prise. Donc moi, j'appelle le président de la République à réagir fortement à cette décision qui vient d'être prise parce que je ne peux pas accepter qu'on s'assoie sur le Parlement. Je dirais même que la légitimité de Mme von der Leyen avec cette action est remise en cause.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Jusqu'à quand les Américains vont-ils accepter de négocier avec les Iraniens? Les discussions autour du nucléaire ont repris hier à Genève. Mais dans le même temps, les États-Unis semblent se préparer à frapper l'Iran. Déploiement d'une force jamais vue dans la région depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis ce matin, cette consigne donnée aux employés du gouvernement américain qui sont installés en Israël. Vous pouvez quitter le pays. Précision à Jérusalem, Alice Froussard.
Dans un email à ses employés, Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, a été extrêmement clair. Ceux qui veulent quitter Israël doivent le faire aujourd'hui tant que les vols commerciaux sont encore disponibles. Le mot d'ordre pour le personnel non essentiel de l'ambassade américaine est donc de quitter rapidement le pays. Concentrez-vous sur l'obtention d'un siège vers n'importe quel endroit d'où vous pourrez ensuite poursuivre votre voyage vers Washington, est-il écrit. S'il ne s'agit pas d'une évacuation au sens propre, c'est un départ autorisé. En d'autres termes, et selon le département d'État américain, une procédure permettant aux employés de quitter leur poste lorsque les intérêts nationaux américains ou une menace imminente pour la vie l'exige. Le texte ne mentionne pas l'Iran à proprement parler, mais l'annonce a été faite après des menaces du président américain Donald Trump de frapper l'Iran et au moment où les États-Unis ont déployé une importante force aéronavale dans la région, notamment le plus gros porte-avions du monde attendu à Haïfa, au nord du pays. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Quant à l'est de l'Iran, deux pays se sont affrontés ces dernières heures. Le Pakistan et l'Afghanistan échangent de tirs à la frontière. Et puis les Pakistanais ont également bombardé Kaboul, la capitale afghane, et une autre grande ville du pays, Kandahar. Nous sommes en guerre ouverte, dit le gouvernement pakistanais, contre le pouvoir des talibans qui dirigent l'Afghanistan d'une main de fer. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
Au cœur du conflit, les talibans qui sont installés au Pakistan.
Oui, les talibans pakistanais qui cherchent à déstabiliser le gouvernement d'Islamabad. Ils se sont considérablement renforcés depuis que leurs cousins afghans ont repris le contrôle de Kaboul en 2021. Le mouvement des talibans pakistanais est devenu une force militaire. Ils s'entraînent dans des camps près de la frontière afghano-pakistanaise et le Pakistan affirme que nombre de ses combattants opèrent depuis le sol afghan pour commettre des attentats sur son territoire. Kaboul a toujours démenti ces allégations, mais cette fois, le Pakistan a décidé de frapper des installations du gouvernement taliban, c'est le régime qui est désormais visé. Islamabad signale ainsi sa volonté de punir les talibans afghans pour leur soutien aux talibans pakistanais.
Et alors c'est un conflit qui est totalement déséquilibré.
Alors totalement, d'un côté il y a le Pakistan, doté de l'arme nucléaire et qui figure parmi les 15 premières puissances militaires mondiales. De l'autre, les talibans afghans et pakistanais, rompus certes à la guérilla, mais qui se battent avec des armes récupérées à l'ancienne armée afghane en 2021. Il y a peu de doute sur l'issue de cette guerre qui, si elle devait durer, tournerait à l'avantage du Pakistan. Et lors d'une conférence de presse ce matin, le porte-parole des talibans a d'ailleurs dit vouloir le dialogue pour résoudre le conflit.
Merci Valérie Krova. Il est trop tard. Trop tard si vous ne vous êtes pas porté candidat aux élections municipales et que vous souhaitiez le faire. Vous aviez jusqu'à hier soir 18h pour vous déclarer. Et dans certaines communes, on peut faire le constat aujourd'hui que personne ne s'est porté candidat. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Alors on n'a pas encore le chiffre exact, nombre exact de ces communes, mais les situations peuvent être différentes de l'une à l'autre. Vous vous êtes rendu compte ce matin?
Oui, ce qui pèse d'abord, c'est le poids de la fonction. Surtout dans une petite commune avec peu de moyens, quand c'est vers le maire que se tournent les habitants, au moindre souci. Difficile alors de trouver celui ou celle qui accepte de prendre la tête de liste. À Roche-Jean, 750 habitants dans le Doubs, Florence Schiavon n'a donc pas de successeur.
On nous demande de faire une liste fermée avec surtout une tête de liste. C'est compliqué d'avoir une tête de liste. Les gens, ils n'osent pas y aller comme ça, quoi. Précédemment, on faisait plusieurs petites listes, puis on ne peut plus panacher, on ne peut plus rien faire. Les gens veulent bien venir au conseil, mais il n'y a personne pour prendre la place de maire.
Autre souci, le nouveau mode de constitution des listes pour ces municipales paritaires et on ne peut plus voter pour des candidats qui se présentent individuellement. Dans le Puy-de-Dôme, Espinasse, 300 âmes, le maire Michel Bancarel espérait la relève et en fait non.
Donc moi je me suis dit très bien, je laisse courir, s'il y a une liste qui se prépare, avec les anciens de ma liste, j'ai dit formidable. Mais manque de chance, ils n'ont pas réussi à faire un nombre suffisant.
Résultat, il va finalement remettre le couvert.
On va voir si on peut faire une liste. Je vais essayer de refaire ça pour une fois, quoi. Je vais être obligé, oui, mais on ne va pas laisser la commune toute seule. C'est pas possible.
Et si une liste est effectivement constituée, de nouvelles élections devront être organisées dans les 3 mois.
Merci Faustine Calmel. Un enfant de 7 ans, grièvement blessé hier soir à Grenoble par des éclats de balles. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un engin incendiaire a été jeté contre l'appartement de sa famille. Visé également cet appartement par des tirs, quartier de la Villeneuve. En janvier, dans le même quartier, un hall d'immeuble avait été ciblé par des coups de feu et une porte d'appartement avait été incendiée. 40 jours de pluie consécutive, c'est inédit de mémoire de météorologues en France et cela de nombreuses conséquences que l'on mesure jour après jour. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour.
Vous allez nous parler des étoiles de mer dans un instant qu'on retrouve en ce moment sur les plages de l'Ouest. D'abord allons dans le département de l'Ariège. Conséquence de ces fortes pluies, la ligne SNCF entre Foix et Ax-les-Thermes s'est affaissée. Elle est coupée à la circulation depuis 10 jours et les travaux vont prendre plusieurs mois. Sur place à Montgaillard, au sud de Foix, Théo Cobel.
C'est un remblai de 18 mètres de haut coincé entre l'ancienne Nationale 20 et la rivière Ariège en contrebas qui glisse et s'enfonce petit à petit. Jean-Michel Aubelot est en charge de l'ingénierie à la SNCF.
Depuis mercredi dernier, on a constaté des mouvements de voie. Le conducteur du train qui a signalé que globalement, il avait senti un début de déformation de voie. Mais donc, en urgence, on a arrêté les circulations et puis on surveille et on prend conscience que ça continue à descendre.
À la voie qui s'affaisse sur environ 70 mètres et qui est déjà descendue d'environ 50 cm.
Aujourd'hui, la voie est quasiment en lévitation. Elle tient parce qu'elle est tenue de part et d'autre, de par sa rigidité. Il y a tout un tas de traverses qui ne sont plus directement au contact du ballast.
Là, si on faisait circuler un train là-dessus, tout menacerait de tomber.
Le train ne passerait pas, le train déraillerait.
La SNCF va donc engager des travaux en urgence dès ce lundi avec un objectif premier, stabiliser le remblai. À Catherine Trevet, la directrice de la SNCF Réseau en Occitanie.
On va mettre 8500 mètres cubes de matériaux au pied du remblai pour venir l'asseoir et arrêter son glissement. Pour nous, il y a une course contre la montre pour ne pas que le remblai parte complètement, parce que s'il venait à partir complètement, là, les travaux seraient très très importants.
Et une fois le remblai stabilisé, il faudra remettre à niveau les voies, à des travaux qui vont prendre du temps, au moins plusieurs mois, et dont le coût financier reste pour l'instant indéterminé.
Reportage ici Occitanie, dans l'ouest et dans le sud-ouest, c'est tout de même la décrue. Les voies sur berge d'Angers, qui sont fermées depuis 10 jours en raison de la crue de la Maine, vont pouvoir rouvrir dans les prochaines heures. Et puis il y a les conséquences pour les animaux, et donc en Loire-Atlantique, avec ces milliers d'étoiles de mer qui se sont échouées sur les plages de Piriac-sur-Mer, Pornichet ou encore Saint-Michel-Chef-Chef ces dernières heures. Ce sont des promeneurs qui les ont découvertes hier. Et Lou Bourdi, ce serait lié aux fortes pluies et aux crues récentes dans la région.
Oui, en fait, c'est assez simple à comprendre. Il a beaucoup plu ces derniers temps. Résultat, eh bien, beaucoup d'eau douce a terminé dans l'océan. Ça a perturbé les étoiles de mer. Élodie Lanier, la directrice adjointe de l'Océarium du Croisic, elle connaît bien le phénomène, surtout après de fortes crues.
D'autant plus que nous sommes localisés entre la Loire et la Vilaine. Donc ça nous amène vraiment un amas d'eau douce quand même exceptionnel et en excédent. Donc qui crée des courants et certains animaux, dont les échinodermes, eh bien, ont du mal à supporter. Ce sont des animaux qui vivent dans des milieux peu profonds. Mais quand une affluence massive d'eau douce arrive, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer aussi vite que certains poissons pour atteindre un milieu qui leur convient mieux. Et dans ce cas-là, ces animaux-là finissent par s'épuiser et se laissent emporter par la houle pour finir sur nos plages.
Et c'est ainsi que des centaines d'étoiles de mer se sont donc retrouvées mortes sur les plages. L'Océarium recommande aux promeneurs, si vous les voyez, de surtout pas les toucher, parce que pour l'instant, aucun prélèvement permettant d'écarter d'autres hypothèses n'a encore été fait.
Les étoiles de mer sont des échinodermes. Oui. Merci Lou Bourdi de nous l'avoir appris. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, faut-il le rappeler, affrontera Chelsea. C'était Chelsea ou Barcelone? Bien, ce sera Chelsea, match aller au Parc des Princes les 10 ou 11 mars. Le choc de ces huitièmes de finale, ce sera l'affiche Real Madrid-Manchester City en Ligue Europa pour les deux clubs français encore en lice. Lille sera opposée aux Anglais d'Aston Villa, Lyon aux Espagnols du Celta Vigo. C'était il y a 30 ans un simple jeu vidéo japonais et c'est devenu un phénomène de société planétaire. Les Pokémon, Pikachu et ses amis fêtent aujourd'hui leurs 30 ans. Nintendo avait lancé la franchise en 1996 sur Game Boy. Aujourd'hui, ce sont des produits marketing, dessins animés, t-shirts, peluches. Et bien sûr, les cartes à collectionner qui ont le plus de succès. Julien Penaud l'a constaté dans le magasin Micromania du Mans.
Et les dresseurs ne manquent pas au Mans, comme Valérien, 8 ans, qui inspecte le rayon des cartes Pokémon pour ajouter une pièce à sa collection.
Chez moi, j'en ai 747 avec mes Pokémon légendaires préférés. Mewtwo GX en or.
T'as aussi des cartes japonaises et indonésiennes?
Ah ouais. J'ai aussi un Ectoplasma X, une de mes cartes préférées, Pokémon du type Spectre. Poison.
J'ai jamais été dedans là, mais du coup, en tant que tata, j'apprends au fur et à mesure.
Ça fait 30 ans que ça existe, Pokémon.
Et effectivement, j'ai des amis qui me disent que eux-mêmes, petits, ils étaient déjà au Pokémon, donc voilà.
Un succès qui ne faiblit pas, au contraire.
Je m'embête même pas à les mettre en rayon. Les gens qui vont venir le matin, j'ai la queue le matin, ça part, c'est tout.
Romain, l'un des vendeurs Micromania, voit débarquer dans la boutique des acheteurs qui ne sont pas des joueurs, mais surtout des spéculateurs.
Grosse spéculation. Parce qu'il y a des cartes qui ont énormément de valeur. On investit clairement dans Pokémon. Ce sont des gens qui évaluent nos produits comme si c'était des produits luxe. Ils vont faire la queue dans tous les magasins, récupérer tout ce qu'ils peuvent. Donc assécher les stocks de tout le monde. Donc ils vont scalper la marchandise et après ils vont repartir, on n'entend plus parler d'eux.
Car il arrive que des coffrets de cartes vendus une cinquantaine d'euros voient leur valeur s'envoler quelques années plus tard.
Reportage ici Maine, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. On va parler de votre week-end également. À partir de 13h30, les jeûnes et la religion. On assiste à un retour des pratiques en ce moment, que ce soit autour du carême ou du ramadan. À quoi est-ce dû ? Y a-t-il des motivations communes d'ailleurs entre les religions ? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton dans les coulisses de la police scientifique et on s'intéresse aujourd'hui à la balistique. Et puis à 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Virginie Troussier et Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des secours en montagne.
Oui, être secouru en montagne doit-il rester un droit ou devenir un coût ? Nous verrons pourquoi la Cour des comptes interroge aujourd'hui la gratuité et quelles pourraient être les conséquences.
Et avec vous Julien, une comédienne.
Sophie Guillemin qui est à l'affiche de La fin du courage au théâtre de l'Atelier qui va nous présenter une chanson qui s'appelle Ni shooté ni. Je vous préviens, on va danser.
Volontiers. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ce samedi, Richard Gottener est dans la balade.
17h, Vincent Josse.
Il a écrit des chansons et des pubs inoubliables. Si vous avez connu les années 80, on a toujours en tête le Yuki, le Sampa et Belle des Champs.
La balade.
Tous les samedis sur France Inter à 17h.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
4 anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique, en finition S-Line suréquipé. L'incontournable de la gamme, avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490 euros par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 7300 euros ramené à 2700 euros après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et les nuages sont de retour sur le nord-ouest.
Oui, alors pas partout évidemment, entre le Poitou-Charentes et les Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien, c'est là qu'on retrouve la perturbation qui est déjà arrivée cette nuit et qui a déjà traversé la Bretagne. Partout ailleurs, c'est un ciel plutôt calme et largement ensoleillé, à part près de la Méditerranée où on a encore quelques nuages bas, comme ces derniers jours. Puis on a quand même le retour d'éclaircies sur le quart nord-ouest, hein, sur la Bretagne ou encore le Cotentin. C'est le fameux ciel de traîne qui se met en place. Quant aux températures, elles sont semblables à celles d'hier, en légère baisse tout de même, avec une moyenne de 12 à 21 degrés du nord au sud.
Est-ce qu'on se dirige vers un beau week-end ?
Alors, demain, ça sera un petit peu mitigé quand même, parce qu'on a cette perturbation qui va se décaler un petit peu vers les régions du sud et de l'est. On la retrouvera entre les Pyrénées et le nord-est, avec toujours ce ciel nuageux, pluvieux, bien pluvieux également au nord de la Seine le matin. L'après-midi, on aura un ciel de traîne, donc nuages, averses, mais quand même le retour de quelques éclaircies. Et puis dimanche, là, c'est le retour de l'anticyclone, il se regonfle et avec lui, le soleil sera de retour après dissipation quand même de pas mal de brume matinale. On aura juste près de la Manche une petite dépression qui va se situer sur la Grande-Bretagne et qui va déborder un petit peu avec là quelques nuages et de faibles averses. Mais sachez qu'à partir de lundi, c'est le retour du soleil quasiment partout. Ah. On reparlera de ça parce que sur les côtes du Languedoc-Roussillon, ça va se gâter avec une nouvelle perturbation qui va arriver. Mais ça sera bien le seul endroit où il pleuvra.
Et on a un peu le temps encore. Merci Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est une coïncidence du calendrier religieux 2026. La semaine dernière, le carême, le temps de pénitence des chrétiens, et le ramadan, le mois de jeûne des musulmans, ont débuté quasiment en même temps. Et cela nous invite à réfléchir à un phénomène que connaissent ces deux religions. C'est le retour de la pratique chez les jeunes. Pour ne parler que de l'Église catholique, le nombre d'adolescents qui demandent le baptême est en forte hausse, des jeunes que l'on retrouve aussi plus nombreux à la messe. Alors est-ce un phénomène marginal ou à grande échelle ? Quelles en sont les explications ? Quelles en sont les motivations aussi pour ces jeunes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs ? Voilà les questions que nous allons poser à nos deux invités. Charles Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du catholicisme et des jeunes. Vous avez coécrit l'ouvrage « Les jeunes et leur laïcité » publié l'an dernier aux presses de Sciences Po. Vous avez également mené des entretiens avec plusieurs de ces jeunes. Vous êtes en direct des studios d'Ici Gironde à Bordeaux. Avec nous également Barbara Moulan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômée de théologie et vous dirigez la publication du média en ligne Il était une fois. J'ajoute que vous animez aussi des groupes de dialogue entre des jeunes de différentes religions. Ça peut se passer à Rennes, ça peut aussi se passer à Belfort et on va en parler ensemble. 01 45 24 7000 pour vous qui nous écoutez. Si vous avez des questions, vous envoyez vos messages aussi par l'application Radio France. C'est l'onglet Réagir. D'abord, Charles Mercier, je voudrais avec vous dresser le tableau global, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre les jeunes Français et la religion, on va dire les 15-25 ans? Est-ce que la majorité de ces jeunes Français demeurent non-croyants ou bien il y a eu une bascule?
Alors, il y a une différence entre l'appartenance religieuse dans les sondages quand on demande « appartenez-vous oui ou non à une religion ?» et le fait d'avoir des croyances métaphysiques. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une progression continue depuis les années 80 des croyances métaphysiques chez les jeunes, notamment la croyance en Dieu, la croyance en l'enfer et au paradis, qui tente à devenir légèrement majoritaire chez les 15-25 ans.
Donc une légère majorité des 15-25 ans croit en Dieu.
Exactement.
Ouais.
Et après, sur l'appartenance, on est sur une minorité de jeunes qui déclarent appartenir à une religion. On est autour de 37 à 45% selon les sondages. Donc c'est un fait qui est minoritaire, mais qui est en légère augmentation sur des sondages récents.
Récents, ouais.
Donc il y aurait une dynamique plutôt de progression du taux d'affiliation, qui demeure néanmoins minoritaire. Donc on est plutôt dans un cas de spirituel qui, pour une minorité des jeunes, s'incarne dans un enracinement religieux et dans une pratique qui tente à devenir plus intensive.
Et si on compare aux autres catégories d'âge, est-ce qu'on peut dire que le religieux est plus présent chez les jeunes ou l'appartenance à une religion plus présent chez les jeunes que chez les autres, les plus âgés ou pas?
Alors, on pourrait dire qu'il se rapproche des plus de 65 ans. Paradoxalement, il y a un rapprochement entre les deux extrêmes de la pyramide des âges, avec un creux qui serait pour les 30-65 ans, qui eux sont moins religieux, moins affiliés, moins croyants aussi. Et donc on a une sorte de convergence inattendue entre les plus âgés et les plus jeunes.
On a les grands équilibres, grâce à vous Charles Mercier, et puis il y a ces signaux faibles, si je puis dire, qu'on a constatés ces derniers mois, notamment ces jeunes qui sont plus nombreux dans les églises. Vous avez constaté aussi davantage de pratiques religieuses chez les jeunes avec lesquels vous dialoguez, Barbara Moulin?
Oui, tout à fait. Et puis surtout, une évolution des questions que les jeunes vont poser au sujet de ces périodes-là. Des questions qui sont beaucoup plus pragmatiques sur les horaires après lesquels on peut manger, sur la manière dont on peut passer le carême. Mais vraiment, il leur faut des règles, comme s'ils avaient besoin d'entendre une marche à suivre, plus qu'une question très intérieure. Ils ont besoin d'avoir des directives.
Mais à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il se passe quelque chose ?
Ça fait environ 2-3 ans, avec l'émergence de certains comptes sur les réseaux sociaux, notamment la présence de sœurs ou de pères qui sont très suivis et qui font justement des lives sur l'arrivée du carême ou même du ramadan. On a l'impression qu'il y a une véritable influence des réseaux sociaux à ce sujet et que les questions qu'ils se posent en live, on les retrouve nous aussi en vrai lors des visites que l'on effectue avec eux.
Quelle forme ça prend ? Par exemple, le mercredi des cendres chez les jeunes catholiques.
Alors, il y a une véritable ritualisation et surtout, comme on est sur une ère très... il faut montrer, il faut poster sur les réseaux, créer du contenu. Le mercredi des cendres, avec cette croix qui est marquée sur le front, donc du coup, qui est très esthétique, on l'a vu beaucoup sur les publications en ligne. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est presque... pas un marqueur identitaire, mais enfin une volonté de montrer qu'on est affilié, qu'on suit.
Donc c'est une minorité de jeunes, mais qui se montrent très engagés, qui ont envie de montrer leur appartenance à une religion.
En tout cas, sur les réseaux sociaux et puis dans les groupes auxquels on a pu intervenir, oui, ça reste assez étonnant. C'est vrai qu'ils ont cette envie de revendiquer. Alors, c'est vraiment gentil, hein, le terme revendication est fort, mais ça reste très calme. Mais ils ont envie de montrer, oui, ils sont assez fiers de cette appartenance.
Charles Mercier, je le disais, vous avez mené à Bordeaux des entretiens avec des jeunes. Est-ce que vous avez identifié une motivation principale de ce retour vers les pratiques religieuses, puisque les aînés, eux, étaient moins engagés dans la religion?
Alors, il y a plusieurs motivations qui apparaissent. Sans doute, le besoin de structurer sa vie, de lui donner un cadre. Tout à l'heure, vous parliez de ritualité, de normativité. C'est sans doute une demande qui peut apparaître dans une société qui apparaît liquide. Il y a sans doute aussi le besoin
des règles, c'est ça, un cadre. Ce oui, que c'est je peux ça, faire, c'est... ce que je peux pas faire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, ça se rapproche des routines sportives, le carême et le ramadan. C'est-à-dire que ça permet de se plier à une discipline, à une assaise, qui va permettre à une version meilleure de soi-même d'advenir. Et ça, en fait...
On peut faire le parallèle, par exemple, avec un coach sportif. C'est-à-dire, le coach, il va dire, il faut s'entraîner 4 fois par semaine. Le prêtre ou l'imam va dire, voilà, dans le cadre du carême ou du ramadan, il faut que tu fasses ça.
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas forcément des prêtres ni des imams. C'est des initiatives qui viennent parfois des jeunes eux-mêmes, qui lancent des programmes, des challenges, des défis, comme le programme Exodus 90 aux États-Unis, qui a eu un succès très, très important. Et donc, c'est plutôt une demande qui vient de la base, plus que de l'institution. L'autre élément...
C'est
la communauté. C'est-à-dire que la pratique en commun d'un même rite, ça permet de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est sans doute très fort dans un contexte où des jeunes éprouvent le sentiment d'isolement, le sentiment d'anomie, le fait de ne pas être assez en relation.
J'ai lu aussi que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris avait pu inciter certains jeunes à revenir ou à venir vers la religion, avait eu un impact sur eux. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi ?
Alors, peut-être que ça a davantage joué chez les plus âgés, même si effectivement ça a eu un impact transgénérationnel. Ce qui est souvent évoqué en entretien, c'est le contexte anxiogène depuis le début des années 2020, marqué par la pandémie, le confinement qui a laissé des traces psychologiques, le déclenchement de la guerre en Ukraine, et le sentiment d'une accélération du changement climatique qui fait que la perception de l'avenir, la perception du progrès, la perception de la technique a été altérée et que ces jeunes cherchent des réponses dans les traditions spirituelles et religieuses.
Est-ce que ce retour vers la religion, vous qui avez fait ces entretiens avec ces jeunes, se traduit aussi par une remise en cause de la laïcité ? Je veux pouvoir parler et m'afficher comme juif, comme musulman, comme catholique, partout.
Alors, c'est pas forcément une remise en cause de la laïcité ni de son esprit, puisque les valeurs de liberté, la liberté d'exprimer sa croyance est au cœur de la laïcité de 1905. C'est plutôt une remise en cause de ces évolutions récentes qui datent du début du 21e siècle, qui l'ont transformé vers quelque chose qui ressemble à une sorte d'impératif de discrétion dans l'espace public. Ça, en fait, ces évolutions récentes, les jeunes sont plus réticents vis-à-vis de ça. Ils ont l'impression que ça engendre une forme de mutilation identitaire. Mais ils sont très attachés à la valeur de l'autonomie, au fait qu'il n'y ait pas de contraintes en matière de conviction et de religion, et aux valeurs de liberté et d'égalité. Et en cela, ils ne remettent pas en cause le principe de laïcité. Ils y sont au contraire très attachés.
Mais quand on leur demande si les lois de la République sont plus importantes que les lois de la religion, qu'est-ce qu'ils répondent ?
Alors, c'est une question vraiment piège, parce que est-ce que ça veut dire que c'est plus important en son fort intérieur ou en son fort externe ? On peut très bien répondre que la loi religieuse est plus importante pour sa conscience que la loi de la République, tout en appliquant la loi de la République dans la vie publique. Il y a eu beaucoup de sondages, notamment sur les jeunes musulmans, qui ont suscité une forme d'effroi dans l'opinion publique, mais qui doivent être remises en perspective, à mon avis.
Vous nous avez dit, Charles Mercier, que ça passait pas forcément par des prêtres et par des imams. Confirmation, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses aussi, sur les réseaux sociaux qui parlent de religion. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles. Elle se fait appeler Alice l'Impératrice. Elle est tiktokeuse, influenceuse catholique. Elle est installée à Dubaï. Elle publie des vidéos de conseils, mais aussi de maquillage. Je vous propose d'écouter un extrait.
Chaque année, j'ai plein de questions sur le carême et dans cette vidéo, je vais y répondre. Déjà, première chose super importante, je ne suis pas prêtre, je ne connais pas la religion par cœur. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le carême ? C'est une période religieuse de 40 jours chez les chrétiens. Je suis catholique. Cette année, ça commence le 18 février, en même temps que le ramadan. D'ailleurs, le carême, c'est souvent comparé au ramadan, le ramadan chrétien, alors que c'est pas vraiment ça. Les 3 règles principales pendant le carême sont celles-ci : faire des efforts au niveau de la nourriture, prier plus pour se reconnecter avec Dieu et faire des bonnes actions. Et selon moi, chacun peut faire son carême comme il le souhaite. D'ailleurs, c'est un prêtre qui me l'a dit. Chaque effort, même minime, Dieu le voit. Donc, c'est idéal de se couper de ses addictions, de manger moins ou de jeûner, d'aller à l'église plus souvent et d'aider les personnes qui ont besoin. En tout cas, bon courage à toutes celles qui le font et que Dieu vous bénisse. Bisous,
voilà, tuto maquillage et carême en même temps, Barbara Moulin, c'est un vrai phénomène.
Oui, sur les réseaux, il y a vraiment des milliers de vues dès qu'on tape le terme carême. C'est plein de contenu. Il y a des plannings qui sortent avec le matin, le midi, le soir, des idées de repas. On est vraiment sur une influence de dite lifestyle, le contenu de cette catégorie.
Avec des gens qui peuvent tout dire, tout et n'importe quoi.
C'est le souci, effectivement, de la spiritualité dans son langage global, puisque ça peut être quelque chose de tout à fait intérieur, et donc vont écouter les personnes qui vont être les plus réceptives. Et effectivement, on peut ne pas avoir de cadre, et de ce fait, être effectivement à l'écoute de tout le monde et n'importe qui.
Olivier nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour à tous. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec l'un de vos invités. La laïcité est le meilleur moyen de faire coexister les croyances et la non-croyance. Mmh. Mais ma question était plutôt celle-ci. Est-ce que on a vu l'influence des TikTokers? Ouais. Est-ce que ce n'est pas finalement une occasion de faire un petit régime avant l'été tout en se donnant une bonne conscience spirituelle, une manière de préparer son summer body avant de se préparer au body of Christ.
Merci Olivier pour cette question. Barbara Moulan.
Alors, ça, c'est amusant. Ça pourrait être le cas, puisque avant l'arrivée de Paul VI, moi donc je suis dans la théologie, donc je vais répondre plutôt sur l'aspect théologique. Depuis les élèves, on va dire milieu des années 60, on a eu effectivement un assouplissement des règles du carême, et notamment les règles liées au jeûne. Et donc on a aujourd'hui plutôt le mercredi et le vendredi saint, le mercredi des cendres et le vendredi saint, qui sont suivis comme étant des jours de jeûne obligatoires. Et puis ensuite, les intentions intérieures ont primé, et donc on peut avoir d'autres formes de pénitence en dehors de la pénitence alimentaire. Et on assiste beaucoup justement à des personnes qui vont dire qu'elles vont faire un carême ou un jeûne des réseaux sociaux ou un jeûne du comportement. Donc je suis pas sûre que l'esprit alimentaire soit vraiment au cœur. En revanche, pour le ramadan, c'est vrai qu'il y a un jeûne effectivement strict et total et alimentaire, donc pourquoi pas.
Et justement, est-ce que vous faites un lien entre les deux, Barbara Moulan? Est-ce que le ramadan étant plus pratiqué ces dernières années par des jeunes, les jeunes catholiques se sont dit moi aussi j'ai envie de revenir vers ma religion? Est-ce que ça a pu jouer?
C'est l'avantage, oui, effectivement, d'une société laïque, c'est que tout le monde se côtoie, apprend les uns des autres, vit ensemble, et donc forcément, il peut y avoir une espèce d'influence qui s'opère, ça c'est fort probable, oui.
Charles Mercier, vous confirmez?
Oui, tout à fait. Je pense que le ramadan, il y a eu des transferts de pratiques entre islam et catholicisme, notamment la dimension communautaire qui tend à s'infirmer dans le carême alors que c'est plutôt effectivement une démarche personnelle. La visibilité qui tend à augmenter aussi, notamment via les réseaux sociaux. Et puis la ritualité qu'on a beaucoup évoqué. Et donc tout ça, en fait, montre des transferts de pratiques entre les deux religions.
Merci à tous les deux pour cet éclairage aujourd'hui, Barbara Moulan et Charles Mercier, invités de ce 13-14, 13h46. Une semaine dans leur vie. Notre dernier rendez-vous avec la police scientifique au cœur depuis lundi de son labo parisien situé à Saint-Denis. C'est la directrice Christelle Sircoupé qui guide notre reporter Sarah Guibaudeau. Et aujourd'hui, nous sommes dans la section de la balistique, mais il faut d'abord trouver son chef, Thierry.
C'est où est Thierry ?
Moi, je vais l'appeler, t'inquiète pas.
Ouais, je te dérange pas, je l'appelle. Merci beaucoup.
On espère qu'il n'est pas parti sur une scène de crime, car les experts balistiques sont les seuls qui se déplacent.
Les experts balistiques sont les seuls qui peuvent être amenés à se déplacer pour faire des trajectoires ou des estimations de distance du tir, pour tout ce qui est reconstitution.
J'étais là où, justement, je vous cherchais partout.
Au laboratoire, on est doté d'un stand de tir qui est au sous-sol du laboratoire. On a un puits de tir aussi. Voilà. Vous pouvez venir voir, c'est ce qu'on appelle un puits de tir, il fait 9 mètres de hauteur. Et donc on tire dans l'eau, la balle elle est amortie, et donc du coup on peut ensuite la récupérer en remontant la passoire du puits, on peut la récupérer pour pouvoir travailler. Et voilà.
Donc en fait vous recevez une arme retrouvée sur une scène de crime, et vous allez tirer de nouvelles balles pour voir la forme que l'arme laisse sur elle.
Chaque arme a sa signature personnelle, oui oui. Voilà. Vous avez un collègue là qui est en train de travailler dessus. Il a procédé à des tirs de comparaison. Il a cette balle, par exemple, il l'a récupérée. Il fait un scan 3D de cette ogive récupérée. Il est intégré dans le fichier national d'identification balistique.
Et là alors, il y a des matchs ?
Alors là, c'est un calibre assez rare, donc je vais envoyer au fichier pour que le logiciel fasse la comparaison. Et comme vous voyez, il y a deux candidats potentiels, ce qui est très peu, et qui sont dans le Nord. Parce que c'est vraiment un calibre de niche, c'est une arme de 1903.
Et notre but, c'est de rapprocher les éléments balistiques retrouvés sur une scène de crime avec des armes à feu qui peuvent être sur d'autres affaires. Et on s'aperçoit de plus en plus que maintenant, des armes à feu utilisées à Paris peuvent être utilisées, par exemple, dans le cadre de narcotrafiquants à Marseille. Voilà.
Alors Christelle Sircoupet, ces dernières années, vous avez vu apparaître de nouvelles armes créées sur des imprimantes 3D.
Effectivement, ça reste encore assez exceptionnel. Et on a monté un projet de recherche. Benjamin est responsable de ce projet avec une petite équipe.
Alors ça, c'est l'arme qu'on prend le plus souvent. C'est celle qu'on a devant nous, qui est noire et verte. Là, c'est le FGC-9. Ça ressemble à un petit fusil. Ça tire des balles de pistolet. C'est un chargeur de grande capacité. C'est une arme qui est issue de la collaboration entre plusieurs activistes internationaux qui ont essayé de trouver un moyen de contourner les réglementations qui empêchaient les gens de s'armer. Il y a un fond politique libertarien derrière tout ça. Donc là, par exemple, je vous ai sorti une partie des documents qu'on récupère lorsqu'on se renseigne là-dessus. Ce sont des guides d'auto-formation. On va vous expliquer comment vous former à l'impression 3D, comment vous former sur les matériaux. Et vous pouvez faire tout ça dans votre garage. Certaines de ces armes, comme celle-ci qui est plus simple, c'est un petit pistolet à un coup qui est inspiré des pistolets de joueurs de poker du western. Il est très rapide à fabriquer.
Très rapide, c'est-à-dire si j'ai une imprimante 3D
le petit pistolet de poche, là, en un mercredi après-midi, c'est réglé. On a eu une augmentation progressive, puis la vague s'est arrêtée. On a saisi moins de modèles en 2025, mais par contre des modèles qui semblaient venir d'une source commune, c'est-à-dire qu'il y avait des marques à la surface de l'arme qui laissent entendre qu'elles viennent toutes d'un même atelier, qui serait hors du territoire. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Peut-être qu'elles servent de source d'armement à des trafiquants pour permettre de créer de l'armement basse technologie ou à bas coût qui serait trafiqué de la même manière que l'armement militaire classique.
Et pour en savoir plus, le livre de Christelle Sircoupet, Le crime parfait n'existe pas. Les droits sont reversés, c'est important, à l'association Orfeo qui aide les orphelins de la police.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le vendredi, 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Et aujourd'hui, Virginie, au cœur d'un hiver meurtrier dans les Alpes, vous nous parlez des secours en montagne. La Cour des comptes, dans son dernier rapport, préconise la fin de la gratuité.
En France, les secours en montagne, au-delà des domaines skiables, sont financés par l'État, qui offre une assurance à ceux qui se trouvent dans une mauvaise passe, un principe de solidarité, ciment de la nation, inscrit dans le droit administratif depuis 1733. Mais en 10 ans, le nombre d'interventions a doublé avec la hausse de la fréquentation, des pratiques plus risquées et un milieu fragilisé par le climat. La facture pour les finances publiques a donc elle aussi augmenté, plus 54% pour atteindre 107 millions d'euros en 2024. La Cour des comptes préconise alors, entre autres, une facturation partielle ou totale des secours.
Cette gratuité est-elle une spécificité française ?
Eh bien, si l'on regarde nos voisins alpins, en Italie, lorsqu'il n'y a pas de blessure, le secours est facturé. En Suisse, hélicoptères et sauveteurs sont privés et payant. La plupart des Suisses sont donc assurés. Mais en Suisse, le risque d'avalanche fait partie de l'histoire intime du pays. Il a façonné son organisation et sa cohésion. Sa gestion de ce danger est d'ailleurs inscrite au patrimoine de l'UNESCO, reconnaissant ainsi une mission territoriale essentielle qui repose sur la prévention, la formation et la solidarité en situation de crise. En France aussi, les professionnels insistent sur le développement des connaissances et la capacité à renoncer. Ce qu'on peut redouter si les secours devenaient payants, c'est une montagne moins accessible, des assurances trop chères et des personnes qui hésiteraient à déclencher les secours par crainte des frais engagés.
La Cour des comptes pointe aussi des pratiques plus risquées qu'avant et donc elle préconise de sanctionner les comportements irresponsables.
Oui, l'hiver, il est vrai qu'on observe des traces après les grosses chutes de neige ou au moment du redout. L'envie de voir briller la poudreuse dans l'entrave des spatules est forte. Mais les secours le rappellent, les comportements imprudents restent minoritaires. Surtout, le danger est inhérent à la montagne. L'avalanche notamment est une menace permanente, un événement complexe et aléatoire, même lorsque le bulletin météo est engageant. La pratique du ski, de l'alpinisme, requiert une analyse rigoureuse. rigoureuse de l'intuition et de l'humilité. Il faut étudier les conditions, être bien équipé, savoir s'écouter aussi, ou faire appel à un guide sans qu'aucun ne puisse garantir le risque zéro. La montagne expose professionnels comme amateurs. Difficile dès lors de qualifier une imprudence. La montagne ne peut devenir un terrain de polémique ou de plainte, elle doit rester un espace de liberté. Car partir en montagne, c'est accepter une part d'incertitude.
Au fond, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous fait accepter ce risque ?
Oui, je crois que la montagne peut devenir quelque chose de vital. Il y a le plaisir esthétique, cette impression d'entrer dans un autre monde. La beauté est presque hallucinante, le sublime au prix de l'effort. Il y a aussi l'expérience du corps, les endorphines au sommet, la vue majestueuse, une forme d'acmé sensoriel, cela vaut toutes les thérapies du monde. Puis la descente, l'horizon blanc entre les tempes skiées comme ailées accordées à l'espace feutré. Enfin, le plaisir de l'accorder, partager des émotions, dormir côte à côte dans l'inconfort d'un refuge, se découvrir dans l'épreuve. La montagne structure des existences, elle est un lieu qu'on habite, qu'on interroge, mais on ne va pas là-haut pour mourir, on y va pour vivre.
Le regard de Virginie Troussier sur nos montagnes et nos océans, chaque vendredi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, Julien Baldacchino. Aujourd'hui, votre invitée est comédienne.
Sophie Guillemin à l'affiche actuellement de La fin du courage, adaptation d'un texte de Cynthia Fleury au Théâtre de l'Atelier à Paris, où elle a donné la réplique à Emmanuel Béart, puis Isabelle Carré et désormais Lubna Azabal. Je l'ai rencontrée quelques minutes avant son entrée en scène et elle m'a demandé, vous allez voir, c'est étonnant, à parler d'une chanson dont elle ne se souvenait ni le titre, ni l'artiste, mais qui a du sens pour elle. La chanson s'appelle Ni Shooté Ni. Elle est créée par les Sud-Africains Gunflavor, Mr. KG et Imo.
En fait, je ne sais rien de cette chanson. C'est drôle en même temps. C'est-à-dire que c'est une chanson que j'ai découverte en regardant des vidéos sur Instagram de danseurs. Parce que moi, je viens de l'univers de la danse à la base. Avant d'être comédienne, moi, j'étais dans la danse. Et je suis passée par plein de formes de danse différentes, classiques, modernes, jazz, hip-hop. Et donc, je suis très friande de musique qui donne envie de danser. En ce moment, comme je suis au théâtre et qu'on a besoin de beaucoup d'énergie sur scène, moi, mon petit rituel du soir, c'est d'arriver 2 heures avant de jouer. Bon, il y a une petite préparation, maquillage, coiffure, machin. Mais je me prends aussi presque 1 heure où je suis toute seule dans ma loge et où je me mets de la musique, je danse, je chante, je fais de la respiration, des choses comme ça. Et donc, cette musique-là que j'ai repérée en suivant des comptes de danseurs différents sur Instagram, elle tourne beaucoup en ce moment justement dans l'univers de la danse. Et donc, je l'ai repérée via ces vidéos, je l'ai chasamée. Et maintenant, je l'écoute tous les soirs avant d'aller jouer sur scène.
Est-ce que cette chanson, votre ressenti par rapport à elle serait différent si vous connaissiez son histoire ? Est-ce que ça lui donne un statut particulier de « c'est une chanson qui est arrivée comme ça » ?
Ouais, moi j'aime bien ce mystère. J'aime bien ne pas tout savoir des choses ou des gens. Même certaines chansons que pourtant j'écoute depuis très longtemps en anglais, je vais surtout pas faire l'effort d'aller regarder les paroles et de les traduire parce que j'ai pas forcément envie de savoir tout ce qui se dit dans la chanson. Parce que des fois quand je le fais, je peux être déçue. Je peux tout d'un coup trouver ça hyper terre à terre alors que quand on sait pas vraiment de quoi ça parle, voilà, dès que c'est de l'imaginaire, ça devient merveilleux. Et pareillement, même dans le cinéma, quand je dois travailler avec un réalisateur dont j'ai pas forcément vu les films auparavant, je les regarde pas avant de jouer avec lui. C'est une musique, moi, dès que je l'écoute, j'ai envie de sourire, déjà. Elle me donne la banane. Oui, c'est de l'énergie, quoi. C'est de l'élan vital, un peu, quoi. En fait, moi, j'ai pas besoin de me concentrer avant de jouer. Justement, j'ai pas du tout envie de me concentrer, d'être dans ma tête, de ruminer le texte, le pourquoi, le comment. C'est le contraire, là. Moi, j'ai besoin d'extérioriser, quoi.
Et derrière cette chanson, Julien, on trouve notamment Master KG, à qui l'on doit le tube « Jérusalemma ».
Et ce titre très dansant ramène Sophie Guillemin à l'essence de la danse, du corps et du collectif.
En fait, ça libère justement. Ça libère de tout ce qui pourrait trop être dans la tête. C'est-à-dire que je pense que le danger de l'acteur, d'une manière générale, hein, c'est toujours de trop réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Évidemment, il faut préparer, comprendre, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ça devienne une sorte de transcendance, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui passe justement par le corps, par l'enveloppe extérieure. Wow, wow. Il faut pas avoir peur d'être ridicule en dansant, quoi. On n'est jamais ridicule en dansant, en fait. Et je trouve qu'on danse de moins en moins dans notre société. Quand j'ai commencé le cinéma, je me rappelle que très souvent, on faisait soit des festivals, soit des soirées après les films, les machins, et que systématiquement, on allait danser après, quoi. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens dansent plus, chantent plus non plus. Alors qu'avant, pareil, je trouve qu'on chantait beaucoup plus. Il y avait des chansons de famille, de parents, de machins, qui étaient presque inscrites un peu dans le patrimoine. Socialement parlant, qu'on dansait mal ou qu'on chantait mal, on le faisait quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment des souvenirs où un truc joyeux et collectif, très collectif, quoi.
Et ça vous manque? Et ça manque au collectif, d'après vous, justement?
Ouais, moi, je trouve que ça manque beaucoup, ouais.
Nichou Temi, c'est le titre interprété par Master KG, Gunflavor et Imo, le choix de Sophie Guillemin.
Qui est sur scène jusqu'à dimanche au Théâtre de l'Atelier. Et la pièce La fin du courage continue encore, elle, pendant une semaine avec un nouveau duo, Rosa Burstein et Lubna Azabal.
Merci Julien, vous serez là lundi. Le générique de ce 13-14. Cette semaine, à la rédaction en chef, Corinne Boulou, Flore Catala et Sonia Princey, assistée de Nicolas Sabat, Anna Lessens et Rachid Zourdani, à la préparation, Camille Poux-Jalaguier, à la technique, Fabrice Desmaz et Philippe Duclos. Philippe qui vit son dernier jour avec nous à France Inter. D'habitude, Philippe, je te parle via les ordres. Je vais le faire à l'antenne aujourd'hui, exceptionnellement, pour te dire que tu vas nous manquer, ton humour, ta bonne humeur, ton extrême professionnalisme. Alors nous sommes tristes puisque tu pars, mais nous sommes heureux parce que tu as fait école ici à France Inter. Bonne route à toi, Philippe.